Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
Nous avons déjà évoqué dans une précédente émission santé l'importance des liens que nous devons avoir avec le bébé et le jeune enfant afin de bien l'accompagner et lui donner toutes les clés pour bien grandir et se construire tout au long de sa vie. Ce matin, nous allons en parler plus particulièrement des relations avec les enfants et les adolescents. Pourquoi est-ce parfois si difficile pour les parents de comprendre leurs enfants? Pourquoi est-ce si difficile pour les adolescents de comprendre leurs parents? Le dialogue est au cœur de notre émission ce matin. Nous allons essayer de mieux comprendre pourquoi il est important de parler à ses enfants, de s'intéresser à eux, à leurs activités quotidiennes, mais aussi comment garder le contact avec eux. Doit-on imposer des règles? Comment le faire? On en parle avec nos invités déjà installés sur le plateau d'Africa Radio, le docteur Stéphane Clerget. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur. Vous êtes psychiatre et pédopsychiatre. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages autour des enfants, des adolescents, mais aussi du rôle des parents. Merci de nous rejoindre avec nous, Gaoussou Samake. Merci d'être avec nous, Gaoussou. Vous êtes éducateur depuis 10 ans dans des structures pour jeunes mineurs. Vous travaillez actuellement à Melun. Alors, la toute première question, docteur Stéphane Clerget, une notion essentielle à retenir, c'est que l'enfant se construit dans le dialogue avec ses parents.
Oui, c'est vrai que la parole, finalement, c'est ce qui nous forme le mieux. Hein. L'enfant apprend les règles, apprend aussi à évidemment à communiquer, mais apprend aussi à désirer, à exprimer ses ressentis par la parole. Alors bien sûr, il y a des parents qui sont muets et qui peuvent malgré tout éduquer leurs enfants, mais enfin il y a des, en tout cas c'est surtout la communication qui importe.
Alors, lors d'une émission précédente, on a parlé justement de la relation entre les parents, le bébé ou le jeune enfant. On a parlé du lien d'attachement. C'est un lien qui est essentiel, qui se crée lors des premières années, hein, au tout début de la vie d'un enfant. Alors, est-ce qu'il est important de faire perdurer ce lien d'attachement et comment on y arrive, docteur Stéphane Clerget?
Oui, ça c'est une notion importante. L'idée quand même, c'est que plus l'enfant est jeune, plus il a quand même besoin de la présence de ses parents, ou en tout cas si les parents peuvent pas, de personnes bienveillantes, il a besoin d'une continuité. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de troubles à l'adolescence sont liés à des ruptures de contact entre l'enfant et ses parents. Donc c'est vrai que si on va bien, c'est important avec le jeune enfant d'être le plus présent possible. C'est vrai qu'on a un peu tendance à dire des fois aux parents de jeunes enfants, mais lâchez-les, autonomisez-les. Faut pas les autonomiser trop tôt, je crois. Il faut les autonomiser progressivement, mais c'est important chez le très jeune enfant de le sécuriser et d'être à ses côtés, d'être à son contact, de le porter. Pourquoi pas la première année de laisser dormir dans la chambre des parents. Il faut pas l'éloigner trop vite, trop tôt. Et c'est ce lien-là qui va justement sécuriser l'enfant et cette espèce de sécurité, c'est comme un noyau dur sur lequel l'ado pourra se reposer quand il commencera à rencontrer quelques difficultés dans la vie.
Alors justement, ce dialogue, cette communication, elle est peut-être parfois difficile dans nos sociétés africaines, notamment Gaoussou Samake. Alors vous êtes éducateur depuis 10 ans dans des structures pour jeunes mineurs. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous vivez au quotidien et puis parlez-nous aussi peut-être aussi de nos par rapport à ces différences culturelles, le fait d'avoir du mal, on va l'entendre d'ailleurs dans un micro-trottoir qu'on a enregistré dans les rues de la capitale, que c'est un peu compliqué le dialogue parent-enfant dans nos familles souvent.
Oui, c'est assez compliqué, c'est vrai, dans nos familles africaines, hein, le dialogue parent-enfant. Donc nos parents laissent les enfants au collège, ils pensent qu'ils se font éduquer par les professeurs, etc. Mais ce n'est pas le cas en fait. Donc il faut, comme conseil, donner aux parents de continuer à être proches de leurs enfants, d'éduquer leurs enfants, et ne pas les laisser dehors, à l'extérieur, avec les amis, etc. Donc vraiment être proche de l'adolescent, de l'enfant.
Alors ça veut dire aussi, notamment docteur, que les parents doivent aussi parler d'eux, raconter leur histoire. Par exemple, lorsque les parents sont installés en France, qu'ils ont vécu, qu'ils sont nés ailleurs, par exemple sur le continent africain, c'est important de leur transmettre, de leur raconter leur histoire. Ça ouvre le dialogue et ça permet d'établir un lien de confiance.
Oui, c'est important de parler de soi, parce que ça autorise du coup l'enfant ou l'adolescent à parler de soi aussi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que l'enfant sait tout sur nous, mais si on lui a rien raconté, il peut pas savoir. Donc c'est important de parler de soi enfant aussi, et on n'ose pas forcément, mais de dire voilà, quand j'étais petit, voilà ce qui m'est arrivé, voilà où est-ce que je suis né, voilà comment était ma vie à l'époque, voilà comment étaient mes parents, mes oncles, mes tantes. C'est important de se raconter, de dire ce qu'on a vécu d'agréable, de pénible. Comme ça autorise l'enfant aussi à le faire et à se confier ensuite à vous. Et puis les enfants, ils ont besoin de connaître leur histoire, ils sont très très attachés à ça, c'est important. Et c'est vrai qu'il faut le faire enfant, parce qu'à l'adolescence, ils s'éloignent un peu de nous, ils ne veulent pas forcément entendre nos histoires. Donc il faut le faire quand ils sont enfants, qu'ils sont bien à notre écoute, et lui raconter notre histoire, et qui est donc aussi l'histoire de l'enfant, et ça les passionne. Hein. Ils aiment bien savoir. Et c'est rassurant, parce que du coup, ils se sentent inscrits dans une filiation, d'une certaine manière. Et ils ont un peu, tous les gens de leur famille qui sont décédés, on pourrait dire leurs ancêtres, ils se sentent un peu soutenus par ça. Et du coup, ils ont un peu moins peur de la mort aussi.
Alors c'est vrai que dans nos cultures, c'est vrai que c'est important quand même d'en parler, de mettre le doigt sur certaines problématiques ou en tout cas différences culturelles, on va dire ça comme ça. Gaussou Samake, dans quelques familles, lorsqu'un enfant pose des questions, on lui répond c'est comme ça, t'as pas à savoir, t'as pas l'âge de savoir, t'es trop petit, t'es trop enfant. Quelles sont les conséquences justement de cela?
L'enfant, quand il, voilà, on lui donne pas les réponses à ses questions, parce que c'est super important, comme il disait le docteur, par rapport, à sa vie, sa famille, etc. À l'âge adolescent, il se pose beaucoup de questions. Et quand il a pas les réponses à ses questions, il va essayer de chercher ailleurs, en faisant des choses peut-être pas bien, pour essayer de trouver, il se cherche, en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué.
Est-ce qu'on peut tout dire à un enfant, docteur?
Tout dire, oui, mais pas n'importe comment. En tout cas, il faut tout dire ce qui le concerne. Et c'est vrai que nos histoires de famille le concernent. Alors, si c'est nos histoires perso, genre nos histoires de cœur très personnelles, ça le regarde pas forcément. Ouais. Mais en tout cas, tout ce qui le concerne, lui, je sais pas s'il a un petit frère ou une petite sœur qui est décédé avant sa naissance, ça le concerne, c'est sa fratrie. Donc, ce qui le concerne, on peut le lui dire. Et comme l'a dit Gaussou, c'est important aussi de pas dire à l'enfant, effectivement, t'as pas à savoir. Pourquoi ? Parce qu'après, l'enfant croit que la curiosité intellectuelle, c'est un vilain défaut.
Ouais.
Or, du coup, après, il va rien chercher à savoir, il va pas avoir envie d'apprendre. Donc, au contraire, il faut dire, c'est bien d'être curieux, ça, je pourrais te le répondre, t'en parler plus tard, mais en tout cas, valoriser la curiosité. Et puis, si on lui dit, t'as pas à savoir, il imagine des trucs horribles. Donc, il se dit, oh là là, il a dû se passer des trucs terribles, alors que la réalité, elle est souvent bien moins horrible que ce qu'ils peuvent imaginer.
Mais ça peut être compliqué, parfois, d'aborder certains sujets avec des enfants d'un certain âge. Par exemple, moi, ma fille qui a 5-6 ans, lorsqu'elle me pose une question sur la mort, c'est compliqué de lui répondre sans la perturber ou sans, je sais pas, l'impression que elle pourra pas vraiment comprendre, en fait, si je lui explique.
Oui, alors soit on est à l'aise, soit on n'est pas à l'aise. Mais si on n'est pas à l'aise, on peut dire, écoute, va demander à ton père, il sera peut-être plus à l'aise. Mais on peut lui dire, en tout cas, c'est une bonne question. Ta question est intéressante, mais j'ai du mal à y répondre. Et comme ça veut dire que ta question, elle n'est pas interdite. C'est juste moi qui ai du mal à trouver la réponse.
Ouais.
Et puis on peut dire, écoute, j'ai pas la réponse, mais renseigne-toi, demande à tonton, ou peut-être que tu trouveras la réponse dans les livres. Du coup, elle a la curiosité et elle cherchera. Ce qui est important, c'est ça, c'est l'envie de... Qui a la réponse de ce qui se passe après la mort ? On ne sait pas. Donc on donne des réponses les plus sympas possibles. Ce qui est important, en tout cas, c'est de répondre sincèrement. Si on a des croyances religieuses, il faut répondre sincèrement. Voilà moi ce que je crois. Maintenant, il y a des gens qui croient autre chose. Renseigne-toi. Le débat est ouvert pour l'enfant.
Alors, qu'est-ce qui le plus souvent parasite le dialogue parent-enfant, docteur ?
Sans doute le mal-être personnel.
Ouais.
Je crois qu'en tant que parent, on est aussi des individus. On peut avoir des soucis. On peut être de mauvaise humeur. On peut être fatigué. On peut être inquiet. et du coup on se maîtrise pas et on envoie balader son enfant ou on réagit mal. Et voilà, la vie peut être un petit peu difficile. Du coup, c'est aussi important de prendre soin de soi. Et puis, c'est important aussi d'expliquer à son enfant, en disant, écoute, là, si je réagis comme ça, c'est pas parce que t'es embêtant, c'est parce que je suis de mauvaise humeur ou je suis inquiet. L'important, c'est d'expliquer à l'enfant, voilà pourquoi je suis pas disponible. C'est pas à cause de toi, parce que l'enfant, il va croire que c'est à cause de lui et qu'il est mauvais, il va avoir après une mauvaise image de lui. Donc, faut lui dire, écoute, là, je vais pas très bien, mais ça a rien à voir avec toi. Au boulot, c'est difficile. Et du coup, il comprend, il croit pas être négatif pour nous, quoi.
Alors, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la fessée. Alors, la violence, justement, punir son enfant, le frapper, lui mettre une fessée, une gifle. Vous travaillez avec des enfants qui ont, pour certains, connu des situations de violence. Quelles sont les conséquences, justement, de ces violences sur la vie de ces enfants après ?
Donc, la plupart des gens, des enfants que je connais, qui ont été agressés, maltraités durant leur enfance, même leur adolescence, quand ils arrivent chez nous, enfin, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Donc, en général, avec les autres adolescents, avec les adultes même, ou même envers eux-mêmes. Donc, ils se font du mal. Et donc, on retrouve très, très souvent chez les adolescents qui ont été maltraités, ce genre de choses-là.
Justement, certains parents considèrent que frapper son enfant, c'est le corriger, c'est l'aider à s'améliorer. Docteur, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de la violence ?
Ben, comme dit Gaoussou, c'est vrai que si on tape un enfant, on va pas ensuite lui demander de pas taper ses copains pour régler ses comptes. Donc c'est évidemment pas la meilleure façon de régler les problèmes. Après, c'est difficile. Moi-même, j'ai reçu des coups de martinet, des coups de ceinturon, et quand j'ai eu mon fils et qu'il était difficile, c'est vrai que j'avais la tentation de lui donner une petite claque, et je dois avouer que parfois je l'ai fait et je m'en suis senti très coupable, évidemment que c'est la tentation, elle est facile, c'est une réaction un petit peu réflexe, mais il faut se dire effectivement que c'est pas la bonne solution parce que ça autorise la violence physique, et puis c'est quand même un échec. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de contrôler un petit bout de chou de 3 ans autrement qu'en le cognant. Est-ce qu'on accepterait que le voisin le cogne ? Est-ce qu'on accepterait que la maîtresse d'école le cogne ? Non, on interviendrait tout de suite et on démolirait l'école. Donc pourquoi nous s'autoriser à violenter ce qui est le plus, enfin, la chair de notre chair ? Donc faut se retenir. Faut se retenir et faut se contenir. Si on veut apprendre à son enfant à se contenir, il faut réussir à se contenir. Même quand il est très pénible, même quand il nous pousse à bout, faut réussir à se contenir et à essayer de régler le problème autrement, soit en discutant, soit en faisant appel à un tiers, soit pourquoi pas en menaçant de supprimer le dessin animé. Faut trouver d'autres modes de réponse.
Alors, on va écouter un petit micro-trottoir. Vous allez mettre votre casque, docteur, si vous voulez l'entendre. Et je rappelle aux auditeurs que l'émission, aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre au standard. On parle du dialogue parents-enfants, 01 55 07 58 00. Si vous voulez nous raconter vos histoires sur la thématique ou poser vos questions à nos invités. On écoute le petit micro-trottoir. On se retrouve juste après.
Moi, mes deux parents sont congolais. Donc au niveau de la communication, ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, il faut savoir que au Congo, il y a une marge de respect qui est très présente entre les parents.
Après, moi, avec ma mère, enfin moi, j'ai une relation assez proche. Je me confie assez à elle. Après, c'est plus avec le papa. Le papa, c'est très 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 compliqué. C'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de discussion. C'est très rare d'avoir des discussions avec les papas africains. Ils sont super stricts.
Bah, ma mère, elle est mauricienne et elle a eu déjà avec sa mère une relation pas très fusionnelle. Elle cachait tout et elle s'est débrouillée toute seule. Et elle a toujours là à m'encourager et ça a été la première, enfin, à me soutenir dans tout, quoi. Et je suis très libre de parler vraiment avec elle sur tous les sujets. Et avec mon père, c'est complètement l'opposé. C'est vraiment... Il a été... élevé en Afrique. On a cette relation entre un père africain et la fille. Ça doit être très distant. Et mon père m'a éduqué dans cette optique que lui-même, il était distant avec son père. Donc, il doit l'être avec ses enfants. Et surtout que je suis une fille, donc c'est encore plus difficile.
Alors c'est vrai, ce sont essentiellement, exclusivement des filles que l'on vient d'entendre, des jeunes filles, de jeunes adolescentes. Alors on voit qu'il y a quand même, selon ce qu'elles disent, des problèmes de communication avec leur papa, plus particulièrement.
Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, hein, chez le père. C'est vrai que les papas africains, voilà, ils prennent beaucoup de distance par rapport à leurs enfants, aussi par rapport aux conditions, le travail, etc. Donc ils créent peu de liens, pas beaucoup de liens avec les enfants. Après, c'est pas forcément, c'est par rapport à la vie.
C'est pas un manque d'amour, en fait, c'est ce que vous
voulez
dire.
Non, en général, c'est pas ça. C'est, des fois, les papas sont beaucoup à l'extérieur, ils font les courses, etc. Donc, ils sont pas proches des enfants. Et pour eux, voilà, c'est la mère aussi qui va éduquer, son rôle principal, c'est d'éduquer.
Souvent, surtout les filles, on dit aux mamans, c'est à toi d'éduquer tes filles.
Voilà, c'est ça. Et on ressent que ça, les filles en parlent là dans le micro-trottoir, donc c'est, voilà, ça les touche quand même. Même si elles sont proches de la mère, c'est vrai que ça, elles ont un manque et elles en parlent.
Alors justement, une réaction, docteur, ce micro-trottoir.
Oui, donc on a un peu l'impression qu'effectivement la parole est plus maternelle que paternelle. On entendait une dame dire « Mon père parle pas beaucoup parce qu'il est strict », mais je crois qu'on peut être strict et parler. C'est-à-dire que parler, c'est pas forcément s'affaiblir. Donc, et puis, je pense, dans ces situations-là, du coup, c'est peut-être important que la mère fasse le porte-parole du père aussi et dise à ses filles « Voilà ce que ton père pense, voilà ce qu'il fait pour toi, il travaille, ça permet de payer le loyer. » Enfin, c'est bien aussi de rappeler le rôle du père, parce qu'effectivement, l'affection, elle se traduit par des paroles, mais elle peut se traduire aussi par des actes.
Ouais.
Donc c'est bien aussi de le rappeler pour rassurer les fillettes. Et puis après, on peut comprendre aussi que certains pères avec des filles se prennent des distances. Des fois, il vaut mieux être un peu plus distant que trop proche.
Ouais.
Si vous voyez ce que je veux dire de sa fille. Donc c'est aussi bien d'être un peu pudique, mais peut-être effectivement, enfin, entendre ses filles, ce serait important que les pères puissent s'autoriser davantage à parler de soi et à dire leur affection, et ça affaiblirait pas leur autorité, je pense.
Et est-ce que justement ces rapports peuvent avoir des rapports avec le comportement qu'elles auront plus tard avec les hommes, ces jeunes filles?
Oui, possiblement. Alors après, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut à la fois chercher un homme qui ressemble à son père, qui est silencieux, qui s'exprime pas. Mais j'imagine qu'on peut aussi ressembler... on peut aussi avoir envie d'un homme qui ressemble un peu à sa mère et qui communique davantage. Donc, bien sûr que ça va influencer, mais après, chacun réagit différemment.
Alors, comment s'adresser aux enfants? Quels sont les termes qu'on doit utiliser? Comment trouver la bonne attitude? Est-ce qu'il y a un moment propice pendant lequel on doit privilégier le dialogue? Alors, dites-nous un petit peu les clés, docteur.
Moi, je pense qu'il faut parler à son enfant très tôt, avant qu'il comprenne ce qu'on dit. D'abord, ça favorise le langage. Dans les faits, les mères parlent beaucoup plus avec leurs filles qu'avec leurs fils. En tout cas, elles parlent plus d'elles. Alors, avec les garçons, on a un peu plus tendance à parler des choses extérieures, pas vraiment de soi. Et je pense que c'est important de parler aussi de soi avec son garçon, parce que c'est pas un hasard si les filles parlent plutôt que les garçons. On a remarqué que les garçons qui parlaient aussitôt que les filles, aussi bien que les filles, à l'école maternelle, c'est les garçons avec qui le père parlait. Et donc, c'est important que les pères parlent avec les garçons. Si on veut que le garçon parle assez tôt et assez bien, et aussi bien que les petites filles à l'école. Donc, c'est important que, dès bébé, le père s'adresse aussi à son fils, à sa fille aussi, bien sûr, qui leur parle de la pluie et du beau temps, de lui, enfin, peu importe. C'est ce qui va aussi favoriser le langage chez son enfant.
Au téléphone, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine, merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue Sandrine, nous vous écoutons.
Oui, j'ai une question, ou plutôt deux. J'ai un fils qui a bientôt 15 ans. Il a été enfant unique de mon côté pendant jusqu'à ses 7 ans. Malgré le fait qu'il ait un petit frère et une petite sœur, moi ce que je lui reproche, c'est de faire, en résumé, j'ai dit qu'il est atteint du syndrome de l'enfant unique. Malgré le fait qu'il a un petit frère et une petite sœur, c'est presque, il les ignore quasiment, il ne joue pas avec eux. Ma problématique quotidienne avec lui, c'est que quand je lui demande de faire quelque chose, Il va me dire machinalement oui, mais il ne va pas, il va tarder à faire ce que je lui demande ou du coup il va oublier. Je vais finir par m'énerver et je suis très souvent dans une relation de conflit. Et il a tendance à être insolent. J'essaye de lui faire comprendre certaines choses et j'ai l'impression d'être face à un mur.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire, docteur Clergé, à Sandrine?
Bah, effectivement, comprendre pourquoi cet ado a besoin de tant se décoller de sa mère. Peut-être que s'il ne veut pas s'occuper des petits frères et des petites sœurs, c'est peut-être parce qu'il n'a pas justement envie d'occuper la place du papa. Et s'il est en conflit avec vous, c'est peut-être qu'il a besoin de se décoller avec vous. Donc moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est bien sûr d'exiger le respect, hein, qui vous parle bien, mais peut-être l'inscrire au maximum dans des activités avec des jeunes de son âge, et qu'il ait justement, alors c'est difficile de lui trouver des responsabilités à son âge, hein, mais l'idée, c'est
j'essaie
ça.
J'essaie justement de le rendre autonome parce que il attend toujours que je lui dise ce qu'il a à faire. Et à 15 ans, j'estime qu'il faut quand même faire preuve d'un peu plus d'autonomie.
Oui, vos demandes sont légitimes, hein, vous avez raison d'exiger ça. Après,
Je l'ai inscrit au théâtre, à des cours de théâtre. Il fait aussi une activité sportive 3 fois par semaine dans un club. Je pense que je fais quand même un minimum.
Ah bah c'est
mais
parfait.
J'attends de lui quand même des petites choses. Quand, par exemple, c'est du savoir-vivre, simplement. Tu n'es pas seul, il y a une vie de famille. Tu quittes une pièce, tu la laisses propre. Tu l'as trouvée propre, tu la laisses propre. C'est du savoir-vivre.
Sinon, hormis toutes ces problématiques, est-ce que vous avez des moments de dialogue, d'échange avec lui? Est-ce que vous
parfois,
vous retrouvez de temps en
parce
temps
que, ben, j'essaye en ce moment parce que je l'avais complètement délaissé à une époque parce que j'étais tellement exaspérée de ne pas voir de progrès que je n'ai plus rien fait avec lui. En ce moment, je reviens en essayant de faire quelques activités, mais quand je vois des fois qu'il n'est pas enthousiaste, ça me décourage.
Docteur.
Mais ça arrive en ce moment que je puisse dialoguer un peu avec lui, mais à un moment donné, il aura une attitude qui fait qu'on est vite agacé et qu'on n'a plus envie de lui parler.
Il a le caractère de qui, votre fils?
Plutôt de son paternel. Je suis une maman solo.
Ah oui, c'est sûr que ça rend les choses... Un peu difficile. Après, le risque, c'est toujours quand on est un peu fâché avec le père de son enfant, c'est de voir tous les défauts du père dans l'enfant. Donc, des fois, il faut.
Non, là, ben, je peux dire qu'il y a eu de l'amélioration, mais il a fallu quand même pas mal d'années. Maintenant, la relation avec le père s'est nettement améliorée.
Ben, du coup, peut-être que le père pourrait un peu vous aider.
Oui, c'est ce que je le sollicite parfois, mais c'est le quotidien qui est difficile à gérer.
Mais il pourrait peut-être intervenir, le papa, pour demander à son fils de respecter les règles de la maison.
Oui, mais il l'a déjà fait. Donc, je suis face à un enfant qui veut faire ce qu'il veut.
Oui, alors c'est vrai que c'est un ado qui a 15 ans. Donc, il faut, j'allais dire, rééduquer les ados. On les a éduqués enfants et puis il faut reprendre le boulot à l'adolescence. Donc, ça va demander un petit peu de temps. Mais vos exigences, elles sont légitimes. Donc, il faut prendre.
Du coup, je ne sais pas vraiment quoi faire.
Il faut continuer, il faut continuer. Ça va porter ses fruits. Mais vous êtes impatiente. Il a que 15 ans. Si on était déjà construit à 15 ans, il y aurait la majorité à 15 ans. Faut continuer votre travail. Il n'est pas terminé. Il faut tenir bon. C'est difficile, mais il y en a plus pour 3 ans.
Mais au moins, que faut-il faire pour qu'il comprenne ce que c'est que le respect? Parce que ça fait des années quand même que je lui dis que le respect, il y a différents aspects du respect. Déjà, pour le savoir-vivre, c'est faire attention aux autres, c'est déjà du respect. Ne pas heurter quelqu'un, ou alors tu...
Il faut faire ce que vous faites, c'est-à-dire lui expliquer, et à la fois, il faut aussi le respecter. La meilleure façon, et il faut évidemment respecter les autres.
Bienveillance et fermeté, c'est ça?
Oui, et puis modèle, c'est-à-dire qu'il faut donner l'exemple. Mais peut-être qu'à l'extérieur, vous allez être surpris d'apprendre qu'au théâtre, ou au cours de sport, ou à l'école, c'est un enfant respectueux.
Oui, mais c'est ce que j'ai appris. J'ai des retours positifs à l'extérieur, mais moi, j'attends aussi que s'il donne une bonne image de lui à l'extérieur, il faut qu'il l'ait aussi à la maison.
Attendez, madame, le plus dur est fait. Vous avez réussi à faire un adolescent respectueux à l'extérieur. C'est formidable. C'est pari gagné.
C'est-à-dire qu'il sait ce que c'est le respect,
pas,
en fait.
Évidemment. Il n'y a qu'avec vous qu'il n'est pas respectueux. C'est pénible, mais son destin, c'est pas de vivre avec vous. Son destin, non. Ça va être de vivre dehors. Donc, vaut mieux un enfant respectueux à l'extérieur et pas à l'intérieur que l'inverse. vaut mieux ça, vrai. Parce que moi je préfère ça qu'un ado qui respecterait bien ses parents, mais qui à l'extérieur respecterait personne. Ce serait dangereux, il finirait en prison. Là, vous avez fait le plus dur, madame.
Parce que au collège, j'ai eu quand même, j'ai été appelée plusieurs fois par le principal parce qu'il y avait eu un problème de comportement. Mais ce qui est bien, au moins, c'est qu'il est recadré au collège quand il dérape.
Oui, et puis que lui, il accepte d'être cadré. Donc,
En tout cas, Sandrine, je vais être obligée de vous laisser. Merci pour votre appel et votre témoignage. J'espère qu'on vous a apporté quelques éclairages, quelques clés. Merci beaucoup pour votre appel. Il reste juste deux petites minutes. Comment on pourrait conclure cette émission ? C'est vrai que le sujet est très dense. Gaoussou, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui nous écoutent ce matin ?
Moi, ce que je peux dire aux parents, c'est surtout ce qui est important, même la dame qui a appelé tout à l'heure, hein. C'est par rapport aux relations qu'ils ont, la communication. Pour moi, c'est la base, c'est super important. Créer du lien avec son enfant, avec son adolescent, ou recréer du lien, comme il disait, parce que voilà, faut recommencer tout à l'âge adolescence. Et en faisant des activités, en sortant, en s'intéressant à lui. Il y a des parents qui ne savent pas le nom du collège où est son enfant, son club de foot, qui n'accompagne jamais, qui l'envoie, etc. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment être proche de son adolescent, mais en gardant la bonne distance. C'est important. Et c'est pas facile.
Je vais vous laisser la conclusion, docteur Stéphane Clerget. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Oui, j'ai envie de reprendre ce que dit Gaoussou. C'est pas facile, mais il faut être patient. C'est-à-dire que l'éducation, ça demande un petit peu de temps. Et il faut pas désespérer parce qu'on rencontre des difficultés. À partir du moment où on est près de son ado, qu'on a envie de bien faire, il faut aussi avoir confiance en son ado. C'est-à-dire que ça demande du temps à pousser et parfois même il y a des turbulences, on rencontre des difficultés, mais il faut juger une fois adulte, quoi. Il ne faut pas désespérer trop tôt et il faut garder confiance en soi, tenir bon, tenir le cap quand c'est la tempête de l'adolescence et comme l'a dit Gaoussou, rester près de son ado, continuer de communiquer malgré tout et pas être dans la rupture et dans le rejet.
Merci à tous les deux d'être venus sur l'antenne d'Africa numéro 1. C'est passé très vite cette émission. C'est le moment de marquer la pause. On se retrouve juste après pour Ambiance Africa. Bougez pas.